Accent d'Europe, Catherine Roland.
Tornan via gli emigranti della patria sognanti, dopo il crudo lavoro, con un gruzzolo d'or, con il cuor d'ansietà.
Bonjour à tous, Accent vous emmène aujourd'hui à Trieste, la ville la plus orientale d'Italie, rattachée au pays seulement depuis 1954. Cité multiculturelle, tournée au moins autant vers la Slovénie, voisine d'une dizaine de kilomètres, que vers le reste de l'Italie, elle a toujours été une porte d'entrée de l'immigration. C'est là, en 98, que le projet SPRAR, système de protection pour demandeurs d'asile et réfugiés, a vu le jour, une volonté locale d'intégration des arrivants. Les demandeurs d'asile sont logés dans des appartements du centre-ville, suivis par des travailleurs sociaux dans leur démarche administrative et leur intégration. À Trieste, plus de 1200 personnes bénéficient aujourd'hui de ce programme. Reportage Clément Matisse.
Alors, qui est votre maestro?
Marco.
Va bene.
Le vendredi matin, les locaux de l'association ICS, le consortium italien pour la solidarité, se transforment en salle de classe. Aujourd'hui, c'est un bénévole, Marco Koslovic, professeur d'histoire au lycée, qui donne des cours aux réfugiés accueillis à Trieste. Ils viennent de Sierra Leone, du Pakistan, d'Afghanistan, d'Irak, et face à eux, Marco gesticule beaucoup pour se faire comprendre, provoquer le débat, le tout exclusivement en italien.
Je ne parle qu'en italien parce qu'ils doivent entendre de l'italien, intégrer cette langue, l'intonation, le rythme et surtout côtoyer des Italiens. On a un exemple dans notre propre histoire, les Italiens débarqués à New York dans la Little Italy qui parlaient un dialecte sicilien entre eux et ne sortaient jamais de leur ghetto. Là justement, ils doivent absolument sortir de leur groupe.
Cette volonté d'intégration, c'est la philosophie de l'accueil des réfugiés à Trieste. La ville gère plus de 1200 migrants venus pour la plupart d'Afghanistan ou d'Irak. Alors plutôt qu'un accueil de masse et dans l'urgence, à Trieste, les réfugiés sont logés en colocation, 5 ou 6 personnes maximum, dans des appartements du centre-ville loués par l'association, et ils sont suivis par des travailleurs sociaux. Chacun de ces opérateurs et les travailleurs sociaux s'occupe d'une quinzaine de personnes avec un objectif principal, leur trouver du travail. Aujourd'hui, Dario rend visite à Ghoul, un berger afghan arrivé en Italie il y a un an. Il le rencontre dans son appartement en plein centre-ville, l'un des 140 gérés par l'association.
Nous sommes convaincus que leur vie leur appartient. On ne doit pas les assister à 100%. Le but du SPRAR est de les intégrer dans la société. Ici, ils ont des tours de ménage, comme dans une colocation étudiante.
Ghoul !
Voici Gull, notre pizzaïolo, vraiment doué. Mardi, il commence son stage. C'est une des choses dont on s'occupe, trouver des formations, puis des stages pour commencer la vie active. Là, il le fera dans une pizzeria de la ville.
J'aimerais ouvrir une pizzeria, une petite affaire, quoi. Et puis, si je peux gagner 1000, 2000 euros par mois, ce serait déjà bien.
Gull, c'est vraiment notre entrepreneur, notre businessman. Et puis, pour y parvenir, il passe au-delà des barrières religieuses. Ça, c'est du jambon. Normalement, il ne pourrait pas du tout y toucher. Mais il a dit, bon, si je veux faire de bonnes pizzas, vu que les Italiens mangent le jambon, je vais devoir y mettre du jambon. C'est vraiment fort.
Ce système d'intégration par le logement créé à Trieste a été adopté par 400 villes en Italie. Surtout, Trieste a réussi à le maintenir malgré la crise des réfugiés et un nombre d'arrivées multiplié par 10 en 4 ans. Gianfranco Schiavone est le président de l'ICS, l'association qui gère ce programme d'accueil.
On a vu qu'avec ce modèle, on peut s'adapter au changement. La question n'est pas le nombre de personnes, mais la capacité à s'adapter. Or, on a vu qu'ailleurs, en Italie, il y a une grande difficulté à gérer ce changement, parce qu'on vit dans l'idée que ça finira. On ouvre un lieu, on met les personnes, et un beau jour, on le fermera, parce que c'est fini. Nous, on ne prend pas des appartements pour un an ou deux. Non, on prend des appartements parce qu'on sait que le changement va prendre beaucoup plus de temps.
Samy, lui, est arrivé à 17 ans en Italie. En Afghanistan, il n'est jamais allé à l'école. Mais ici, il suit des cours et il arrive à présent à lire l'italien. Aujourd'hui, Samantha Germani, son opératrice, l'attend dans son appartement. Elle l'aide à préparer un stage. Samy rêve de rejoindre Paris, mais pour l'instant, il se voit bien rester à Trieste. Ici, il a ses papiers, son appartement, il envisage un futur.
D'abord, je veux trouver du travail ici. Après, si je ne trouve pas, je penserai à aller à Paris ou en Angleterre, mais plutôt Paris.
Mais le rôle des travailleurs sociaux est aussi de gérer les rapports avec le reste de la population. Et Samantha voit les comportements des voisins évoluer.
Au début, ils ont des craintes, des peurs primaires, de la différence. Alors, ils voient un Afghan et ils se disent « Ah, je dois avoir peur de lui ». Mais bientôt, cet Afghan, ce sera celui qui l'aidera, qui changera son ampoule quand elle sera grillée. C'est là aussi notre travail, de faire de la médiation. Je n'ai pas à être le porte-parole des garçons dont je m'occupe. On doit être un lien entre eux et le monde, tout en leur laissant leur liberté.
Ceux qui trouvent du travail s'installeront à Trieste. Les autres reprendront souvent leur route vers l'Angleterre ou la France. Car un an maximum après l'obtention des papiers, les arrivants ne peuvent plus bénéficier des aides ni des appartements du SPRAR.
C'est une puissante banquière PDG de Santander, la première banque espagnole. Ana Botín vient intégrer le club Bilderberg, ce club fameux et ultra discret qui réunit les personnalités les plus puissantes du globe. François Musso nous en dit plus.
Jolie, brune, élégante, voire sophistiquée, mais aussi rigide, c'est Ana Patricia Botín, de très loin la femme la plus influente d'Espagne. Une femme qui dirige une banque disposant de 17 millions de clients, une banque, le Santander, qui par son seul nom fait trembler, une banque qui n'a cessé d'engloutir d'autres entités régionales depuis les années 80. Ici, cette femme autoritaire, intelligente, déterminée, a peu de concurrence à son niveau. Depuis 3 ans, elle dirige la banque d'une main de fer, s'entourant de conseillers de confiance, imposant un blindage médiatique, si bien que peu d'informations ne transpirent concernant la riche et puissante banquière. Ana Patricia Botín a même une stature internationale, puisqu'aucune autre femme ne dirige une banque globale comme peut l'être le Santander. Elle se distingue donc bien sûr, car aucune Espagnole n'est jamais parvenue à ce niveau de responsabilité, mais plus que tout, elle est l'héritière d'une dynastie, plus exactement la 5e génération d'une lignée, celle des Botín, qui viennent de Cantabrie, dans le nord du pays, une lignée qui s'est toujours consacrée à l'activité bancaire. Pourtant, à cette femme brillante qui parle 5 langues, il ne faut pas lui dire qu'elle n'est que la fille de son père, aujourd'hui décédé, ou une héritière Botín. Sous son autorité, le Santander a vu augmenter son efficacité, son expansion mondiale et ses services. Ana Patricia Botín l'a toujours dit, « Je veux être jugée pour mes mérites et non pour mon sang ». Pour l'instant, elle semble avoir réussi son pari.
Lycéens français planchent depuis ce matin sur les épreuves du baccalauréat. Ça a commencé par la philo, créée il y a plus de 2 siècles déjà. Cet examen qui sanctionne la fin du lycée et permet l'accès à l'université n'a cessé de faire l'objet de critiques depuis des années. Mais les réformes se font attendre. Le nouveau gouvernement réfléchira à un système de sélection vers l'université. Une sélection qui est déjà en vigueur dans beaucoup de pays européens où les examens de fin d'études présentent des différences assez fortes par rapport au bac français. Petite revue de ce qui se fait chez nos voisins avec vous, Daniel Vigneron. Bonjour Daniel.
Bonjour Catherine.
Alors, quelles sont les principales critiques faites au bac ?
D'abord, cet examen organisé en juin de chaque année simultanément dans toutes les académies de France coûte cher. Si l'on en croit certains syndicats de directeurs d'école, le coût de l'annulation de 3 semaines de cours en fin d'année, ajouté aux frais d'organisation proprement dit, fait monter la facture aux environs de 1,5 milliard d'euros. Pour remédier à ce coût élevé, beaucoup suggèrent de passer au contrôle continu des connaissances sur les 2 dernières années d'enseignement secondaire, système considéré comme plus juste et reflétant mieux les capacités réelles des élèves. D'autre part, il faut dire que la philosophie du bac, en tout cas celle du bac général, est bien de consacrer l'acquisition d'une culture générale plutôt que de déceler des aptitudes conduisant à emprunter un parcours professionnel particulier.
Et Daniel, le baccalauréat français se distingue-t-il beaucoup des diplômes de fin de secondaire des autres pays européens ?
Oui, il s'en distingue à plusieurs égards, et notamment du fait qu'il constitue un sésame automatique à l'entrée à l'université et qu'il ne repose guère sur le contrôle continu, du moins en ce qui concerne le bac général. Cependant, le pays qui paraît se rapprocher le plus de la pratique française en matière de bac est l'Irlande. De fait, le Leaving Certificate irlandais ne s'appuie pas sur le contrôle continu. En revanche, l'accès à l'université se fait en fonction des notes obtenues et non de la simple obtention du diplôme.
Et quel pays met avant tout en lumière les notes par matière, Daniel ?
Le système anglais pousse très loin cette logique. Ainsi, ce que l'on appelle le A-Level, qui est le système de contrôle en deux années de la fin du cursus secondaire, ne fait guère l'objet de statistiques globales. Peu importe en effet combien d'élèves ont obtenu le A-Level, ce qui compte c'est combien l'ont obtenu avec le maximum de meilleures notes. La note A, justement, sur une notation de A à E. Et surtout, si ces notes correspondent bien aux exigences de telle ou telle université. Quant à intégrer Oxford ou Cambridge, il faudra repasser des examens d'entrée spécifiques. Donc, en soi, le A-Level n'est une garantie d'intégrer la fac de son choix que si l'on a eu de bonnes notes. Quant au contrôle continu, il intervient par anticipation puisque les inscriptions à l'université se faisant des mois à l'avance, les écoles doivent estimer le niveau que l'élève devrait atteindre à l'examen.
Et chez nos voisins allemands, le choix est porté sur le contrôle continu, justement.
Tout à fait. L'examen écrit et oral de l'Abitur ne porte que sur 5 matières choisies par l'élève qui a été invité à se spécialiser 3 ans avant la fin de ses études secondaires. Et cet examen n'entre que pour 30% dans la note finale, les 70% restants résultant des divers contrôles effectués au cours des 2 dernières années de gymnasium qui correspond à notre lycée. Notons bien qu'en Allemagne, l'Abitur n'a pas le caractère général du bac français et ne concerne pas les filières techniques ou professionnelles. Il est par excellence le diplôme de ceux qui se destinent à l'université et seulement 41% des élèves d'une classe d'âge en sont titulaires.
Y a-t-il d'autres pays où le contrôle continu tient une large place ?
Le Danemark est sans doute le pays le plus singulier en la matière. Les études classiques au gymnasium sont sanctionnées par un certificat obtenu après le Studentereksamen, mais il existe au moins 3 autres examens de fin d'études secondaires permettant d'accéder à l'université. L'un pour les filières commerciales, l'autre pour les filières technologiques et professionnelles, le troisième en cycle court pour les élèves menacés de décrochage. Dans toutes les filières, chaque élève a le choix de 3 niveaux. Le système est tellement souple qu'il est difficile de déterminer la part de contrôle continu puisque l'examen final lui-même peut combiner, selon les écoles, des formes multiples. Écrit, oral individuel ou de groupe, présentation de projet, etc. Il est de toute façon tenu le plus grand compte des notes obtenues en cours d'année, notamment dans les matières qui ne sont pas passées à l'examen final.
Et quid de nos voisins italiens ?
L'esame di Stato, qui remplace l'ancienne maturità, consiste en 3 épreuves écrites et une épreuve orale. Mais le contrôle continu portant sur les 3 dernières années d'études entre pour 25% dans la note finale. Si l'examen d'état donne directement accès à l'université, il faut noter que la sélectivité s'opère plutôt en Italie au niveau des lycées, qui sont souvent spécialisés et peuvent exiger des niveaux de notes élevés pour les intégrer.
Finalement, Daniel, notre bac paraît un peu archaïque.
Oui, on aurait pu citer d'autres exemples de systèmes élaborés comme la Suède, où un système de contrôle continu intégral porte sur 17 programmes différenciés du secondaire. Les Pays-Bas, où se combinent contrôle interne à l'établissement scolaire et contrôle externe au niveau national. Ou la Belgique, pays dans lequel le certificat d'enseignement secondaire combine contrôle continu et examen dont les matières sont définies par l'école. Dans quasiment tous les pays, donc, l'organisation de la fin des études est à la fois plus souple, plus diversifiée et plus orientée vers la sélection qu'en France.
Daniel Vigneron de MyEurope.info. À bientôt, Daniel.
À bientôt, Catherine.
Les présidents se suivent, mais peu de choses changent pour certaines régions françaises qui souhaitent plus d'autonomie et de mesures en faveur de l'identité locale. C'est le cas de la Corse. L'île réclame depuis longtemps la reconnaissance de sa langue, en vain. En attendant, la pratique du corse risque le déclin. Certes, quelques 90 000 personnes, soit 45% de la population adulte, déclarent s'exprimer en Corse avec des proches, mais peu de parents transmettent la langue à leurs enfants. Malgré tout, à l'école, tout est fait pour la revaloriser. Dans les écoles maternelles et élémentaires, les enfants apprennent le corse. Ils étudient aussi plusieurs matières dans cette langue. Reportage à Bastia, Christine Siebert.
Bonjour, Midiam ou Samir,
Midiam ou Mohamed.
L'école bilingue René Soubissi se trouve dans un quartier populaire de Bastia.
Pour le directeur de l'école, Domenico Del Porto, l'apprentissage du corse favorise l'intégration des enfants de toutes les origines.
Le corse, il est vecteur d'échange, vecteur d'ouverture sur le monde, il est vecteur d'intégration et il est tout. La langue corse, c'est tout et en fin de compte, c'est un point commun pour tous les enfants. Les enfants qui sont d'origine de Corse, les enfants qui viennent de pays étrangers. Et en fin de compte, cette langue corse, elle va permettre l'intégration encore plus facilement pour ces enfants-là.
Mounia Ghazali, qui se dit corse d'origine marocaine, confirme, pour ses enfants, apprendre le corse, c'est apprendre bien plus qu'une langue.
C'est un outil d'intégration. Moi, mes enfants sont en école bilingue. D'apprendre la langue, c'est d'apprendre la culture, c'est d'apprendre les mœurs. C'est bien plus que ça, oui.
À l'école René Soubissi, toutes les matières sont enseignées en français et en corse. La règle est simple, on parle et on chante corse la moitié du temps scolaire.
Ça parlait d'un oiseau qui, si elle aurait coupé son aile, ça ne deviendrait plus un oiseau.
Mais dans la cour de récréation, les enfants parlent le plus souvent français.
Moi, je m'appelle Anthony Muscarelli, je fais du karaté.
Et entre vous, vous parlez français ou corse ?
On parle corse et français.
Et ouais. À quel moment vous parlez corse ?
Le matin, quand on rentre, on fait un peu de corse.
Aujourd'hui, la langue corse est donc mise en valeur. École publique bilingue, enseignement du corse au collège, cursus universitaire. Il n'empêche, les Corses parlent de moins en moins leur langue. André Fazi est politologue à l'Université de Corse.
Malgré tout, la pratique sociale globale du Corse décline. Elle décline de façon d'autant plus paradoxale que la langue corse n'a jamais été aussi valorisée et soutenue au niveau institutionnel. Même par Paris, je veux dire, Paris, à partir de 1982-83, les circulaires Savary qui ont permis l'enseignement des langues régionales, mais ensuite, je veux dire, par des réformes qui ont été spécifiques à la Corse, je veux dire, participent largement à cet enseignement, ne serait-ce parce qu'il y a plus de 100 professeurs de langue et culture corse qui sont certifiés, parce que bientôt il y aura une agrégation. Bon. Donc oui, Paris a participé, bien sûr.
Pour faire revivre le corse dans la vie quotidienne, Lisandro De Serbi a fondé Pratica Lingua. Au sein de cette association, des adultes se réapproprient la langue qu'ils ont failli perdre tellement elle avait été jadis dévalorisée par les autorités parisiennes.
La langue corse a subi pendant longtemps une politique linguistique de la part de la France qui, pour ces langues dites minoritaires, a été catastrophique. On a, par le biais de l'école, beaucoup expliqué aux populations que leur langue, ce qu'on leur faisait appeler des patois ou des dialectes, ça valait pas grand-chose. Et donc, pendant la deuxième partie XXe siècle, la pratique de la langue corse a beaucoup baissé en qualité et en quantité. Le dernier chiffre de l'INSEE, c'est 2% de transmission naturelle du corse en famille. Donc, le processus de francisation vraiment est arrivé à terme.
Allô, bonjour. Sobeao 06-30-55.
Les élèves de Pratica Lingua sont donc là pour transmettre à nouveau le corse à leurs enfants.
Mon père est corse, j'ai toujours entendu parler corse à la maison, mais je ne l'ai jamais parlé à l'extérieur avec mes amis. C'est la naissance de mon fils qui m'a motivée. J'ai envie de lui parler corse et c'est très important pour moi.
Moi, c'est parce que je voulais parler avec ma fille qui est au cours d'à côté, qui a 3 ans et demi. Donc je suis content, ça fonctionne, on échange.
Alors, pourquoi ce désir de transmission ? Pourquoi est-il si important de parler corse ? Pour Lisandro De Serbi, c'est un moyen de connaître ses racines pour mieux pouvoir s'ouvrir aux autres.
C'est très important de savoir qui on est pour ne pas avoir peur de l'autre et pour s'ouvrir et non pas pour... La maîtrise de sa propre langue, c'est le meilleur antidote au racisme et au rejet. Quoi. Quand on maîtrise sa langue, quand on maîtrise son identité, on est serein et on accueille l'autre avec plaisir plutôt que d'avoir peur de l'autre.
Et voilà, les mots rentrent dans les mémoires. Le corse, c'est la langue du cœur, disent ces nouveaux apprentis. Quand c'est dit en corse, c'est bien plus chaleureux.
À la réalisation, il y avait Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur rfi.fr ou sur notre page Facebook. Restez à l'écoute de la Radio Mondiale. Dans quelques instants, les infos.